c'est Dieu dit, Moshe dit, ouais, qu'est-ce que tu m'envoies voir, Pharaon? Je ne sais pas parler. Loïch Devar et Manochi, je ne suis pas un homme de parole. Vani Arel se Fataim, je suis incirconcis d'élève. Un dominateur par rapport à Pharaon et Aaron Achicha Yenevicha. Aaron, ton frère, sera celui qui parlera. Et le verset Guimel, Vani akshe et lev paro, virbeti et ototai, vet moftai, be eretz mitzrayim. Je durcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes prodiges dans la terre d'Égypte. Et donc, la question classicos, oui, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu durcit le cœur de Pharaon? Et nous avons vu la semaine dernière deux réponses complémentaires en vérité. Et que notre ami Emmanuel Vaniche, notre sympathique ami, a synthétisé brillamment en quelques lignes. Nous le remercions et nous lisons les Chaim.
Chaim Devim.
Que quoi? Première idée que présente le Maharal. C'est qu'en vérité, Pharaon a fait en sorte que le nom de Dieu soit absent de l'Égypte. Donc, il faut que Pharaon répare. Il faut que Pharaon répare son forfait. On a développé longuement ça la semaine dernière. Et que ça veut dire, si moi, je tords le bras de mon ami par derrière, je lui fais une clé, et que je fais comme la police qui tabasse nos frères bronzés.
Ouais, nos cousins.
Donc, par un délit de faciès, oui. Et qu'il dit « Arrêtez, j'arrive pas à respirer !»« Arrêtez, je n'arrive plus à respirer !» Et il continue. « Arrête !» Je reconnais tout, je suis d'accord. Aïe, je suis d'accord sur tout. Ça, ce n'est pas ce que voulait Hachem. Ce que voulait Hachem, c'est que de manière libre, consciente et non forcée, ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et deuxième élément, tu peux remarquer d'ailleurs qu'il ne le force, il durcit son cœur qu'à la sixième plaie, au départ, c'est Pharaon lui-même. Il y a notre ami Severo qui arrive, Sounding Ovation. Salut, Mazel Tov. Ça va? Ça va bien?
J'ai mis le masque.
Ah oui, d'accord.
J'ai un peu tendance à travailler avec des gens parfois contaminés.
Attends. Bon, Antoine, c'est cool. Bon,
ok. J'ai quelque chose à fêter.
Ah, c'est vrai.
Attends, c'est trompé, le mec, il ne connaissait pas le truc.
Je prépare un poisson, alors.
Il ne connaissait pas l'ambiance. Bon, les amis, attends, surtout qu'ils m'ont énervé, même les piliers de bistrot, ils ne sont pas venus ce soir. Alors, regardez ce que notre ami Cerrero amène.
Oh là là.
On aurait dû venir. Regarde, j'ai vu hier une photo des rabbanim de Fès. Il y avait un grand Rav Cerrero.
Lequel, Rabbi Chaim? Il y a eu beaucoup de rabbanim.
C'est de ta famille?
Ah, oui. Pas directement ascendant, mais un oncle.
Ah, d'accord. Okay.
Oui, c'est lié.
Il y avait une photo de Rav Yedidia Monsonego, de Rav Sterero. J'ai vu hier, je ne sais pas de, qu'est-ce que je cherchais, je ne sais plus dessus. Ah, t'as même un...
Je me suis dit...
J'ai juste... Ah, mais t'as raison, je vais chez Zizek, qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Et Chaïma, Rémi, oui, tu m'en veux pas que la semaine dernière, je n'ai pas pris de ta vodka.
Non, pas de problème. Hein, je la ramène la semaine prochaine.
Voilà, d'accord. Alors, je continue néanmoins en attendant que notre ami débouche. Alors, ok. Et le Maharal dit, nous pouvons remarquer, d'ailleurs, que les cinq premières plaies, c'est Pharaon lui-même qui a durci son cœur. C'est seulement à la sixième plaie que Dieu a durci son cœur. Explication. Parce que les plaies partent des niveaux le plus bas, c'est-à-dire de la réalité terrestre, jusqu'au niveau le plus haut de la réalité céleste. Et les cinq premières plaies, les verres étaient déjà là, les cinq premières plaies vont progressivement de l'eau, de la terre, au-dessus de la terre, c'est-à-dire l'eau, oui, c'est le sang. La terre, ensuite il y a le dam, c'est Fardéa, les grenouilles, kinim, il y a la terre qui se transforme en vermine. Donc ça va petit à petit de plus en plus haut. Et tant que c'était dans la réalité inférieure, Pharaon, ça ne le remettait pas en question. Parce que, explique le Maharal, l'homme est dans les réalités inférieures, mais néanmoins, il y a la conjonction chez l'humain des réalités inférieures, des tartonymes et des hélionymes. Par sa neshama, il y a une dimension céleste dans l'humain. Donc, tant qu'il est submergé par les dimensions terrestres, dès qu'il est submergé par les dimensions terrestres, il gère quelque part, parce qu'il est au-dessus de ça. Et quand les réalités supérieures ont commencé à s'abattre sur lui et sur son pays, alors là, il a craqué. Or, Dieu ne voulait pas qu'il craque. Dieu voulait que c'est par son discernement qu'il reconnaisse la royauté libre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, à partir de la sixième, s'il n'avait pas durci son cœur, tout de suite, il aurait dit stop. Donc, c'est en vérité, ici, il y a un coup de théâtre maralien, si on peut s'exprimer ainsi, ou au contraire, il a durci son cœur pour qu'il soit libre. Ah, ça, c'est un coup de théâtre, n'est-ce pas? C'est un coup de théâtre pour qu'il soit libre. Thèse reprise. Abondamment par Rav Dessner, par exemple, hein, parmi les contemporains. Alors, ici, je crois que c'est Antoine, tu as dit un point important, parce que on a essayé de donner un écho de ce que nous étudions par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux plaies, aux makotes que nous vivons aujourd'hui. Et ce Maharal, qui est toujours une dimension prophétique, qui traverse les temps, où ici, il y a des makotes, et on voit que notre cher Macron, avec son aéropage, c'était Constantin, oui, avec son aéropage, pourrait dire, regardez, ici, on vit quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne sait rien, et que nous, d'un cœur entier, nous reconnaissons que la royauté revient au Créateur.
Il a presque dit ça. Il a presque dit.
Hein? Alors, et franchement, je suis... ça me travaille. Comment ça se fait qu'il ne dit pas ça? Non, non, je suis sérieux. Je suis franchement sérieux.
C'est peut-être la première clé, ça.
Comment?
C'est peut-être la première plaie.
Il lui en faut cinq.
Non, moi je pense que ce n'est pas la première plaie. Je pense que le dérèglement climatique était des premières plaies. Il y a déjà eu des plaies. Mais on n'a pas voulu admettre que c'est des plaies. Mais ce sont des plaies. Alors,
ils disent qu'il faut faire des voies des pistes cyclables. Ils disent qu'il faut faire des pistes cyclables et c'est ça vrai. Va.
Donc, résultat voilà. De tout ça, on a fait le chouva, on a élu un Hidalgo.
Ça a dû te faire plaisir d'ailleurs.
Voilà. Alors, les Chaïm de Nathan, donc c'était la mère de son fils. Pas seulement ça, c'est plus que ça. D'abord, chaque enfant, c'est le courage de porter un enfant. Hein. C'est rien qu'en tant que tel. En plus de ça, madame a été, pendant la grossesse, a été sous coma du fait du coronavirus. Donc,
et elle va bien.
Voilà, donc c'est en plus de ça, en tant que tel. Alors, Vaniche, là, qu'est-ce que tu bois
De la vitelle.
Comment?
De la vitelle.
De la vitelle. Bon, les Chaim Tovim. Les Chaim. Bon, Rato, Adeno, Yeloué, Noumele, Rulam, Boré, Péri, Agofé.
Amen. Amen.
Pas de désagréable à boire.
Bien. Ok, tout ça pour dire, merci. Tout ça pour dire que, Constantin Haïs, qui ne peut pas être là ce soir, a dit la semaine dernière quelque chose d'assez bouleversant, que justement, c'est ça le qui est impressionnant dans ce que nous enseigne le Maharal. C'est qu'ils ont l'illusion encore de gérer. C'est tant qu'ils ont l'illusion de gérer. C'est ça en vérité, ce que dit le Maharal. Tant que ça touche les réalités terrestres, ils sont dans leur domaine, on gère. Tant qu'on trouve une dimension, ils ont l'impression, en vérité, nous, je pense, là on est dans une période très bizarre. Voilà, toi, tu viens, tu dis, tu es en contact avec des gens qui sont contaminés, machin, bidule. On ne sait pas. On se dit bonjour, on ne se dit pas bonjour, on serre la main, on ne serre pas la main, on met le masque, on ne met pas le masque, on ne vient pas au cours, on ne vient pas. Là, par exemple, normalement, le cours, ce n'est pas ici que ça se passe. On a un centre. Ça fait plus de 3 mois qu'on n'est pas dans le centre. Comment on vit ça? Comment on gère ça? Des endroits, c'est open bar. Des endroits, c'est complètement fermé. On ne sait pas. On n'y comprend rien. Mais on gère. Mais on gère. Et il y a un boom des écolos. Quelle rigolade. Non, quelle. Oui?
Pour moi, c'est une fumisterie. C'est...
Non, pour tout le monde.
Je pense écologique. Ça veut dire.
Pour tout le monde.
Je déteste le gaspillage. Mais. Ils ont réussi à faire fermer une centrale nucléaire.
On parle que l'histoire de Fessenheim, j'ai des amis qui sont dans le métier, ils disent que c'est une fumisterie absolue.
Tous les scientifiques ils disent mais c'est complètement débile. Ouais. C'est ce qui nous permet de faire de l'énergie sans produire de CO2 et on ferme.
C'est la démagogie. Tout ça pour dire que là. Tout ça pour dire que ce qu'on vient de faire là, c'est simplement. Regarde, cette chaise est cassée. Non.
Comme dans la chaîne, je ne pouvais pas rien.
Bien. Donc là, simplement, nous avons fait la révision. Maintenant, nous prenons le texte dans le Givurot Hashem. Le Givurot Hashem que notre ami Jonathan, il y a 2 semaines, nous avait fait au copier. Alors, tu l'as ? Oui. Omnam. Alors, regardez la page Kufkaf. Kufkaf, la colonne là. C'est bon, vous l'avez ?
Ouais, je l'ai mis en partage.
Magnifique. Omnam. Oui, c'est bon. Omnam beshemot rabba beparashat bo. Donc, dans le Midrash Rabba, parashat bo. C'est une vision.
C'est quoi, c'est
une bouteille d'Arsat? Dis-moi, tu veux un petit whisky? Ouais, allez. Ou un petit vin d'Alsace. Quoi?
Et qu'est-ce que vous dites? Je prends un vin d'Alsace ou...
Allez, bah, évidemment.
Allez, bah, va ouvrir, va ouvrir. Oh là 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 là. Attends, je vais te chercher un verre. Tu sais que monsieur a fait la brite mulade sans fils hier.
Merci beaucoup. En Paris, c'est possible. Par exemple. Ouais.
Merci. Bon, alors, Omnam. Mais je m'en rabat, Rachad Bo, Kani Irbati Elibo, car j'ai alourdi son cœur. Amar Rabbi Yochanan, Mikan Pitronpe Laminim. Lo Aita Mimeno, Sheyase Teshuva, Sheneema, Kani Irbati Elibo. Rabbi Yochanan dit, quand le verset dit, car j'ai alourdit son cœur. C'est un argument pour les hérétiques de dire Dieu l'a empêché de faire du repentir. Donc, ça veut dire Dieu enlève la liberté à l'homme, l'homme n'est pas libre, l'homme est manipulé par Dieu. Donc, c'est or, c'est un grand principe dans la Torah, grand principe beaucoup développé dans Maïmonide. Ouais, monsieur Vanish, où est-ce que notre ami Maïmonide développe cela longuement, que l'homme est libre et que c'est fondamental? Nous?
Dans Ilchot Tshuva du Yad Hazaka, il fallait que j'active le son.
D'accord, et particulier, et aussi dans le 8e chapitre du traité des 8 chapitres.
Mais je m'en apprends pas qui.
Hein? Voilà. Donc, Rabbi Yochanan dit ici, c'est un argument pour les hérétiques. Amar Ish Lakish. Ish Lakish dit, Issatem piem shel minim, que les bouches des hérétiques soient fermées. Et Ela, Imla Letzim ou Yalitz. C'est-à-dire, avec les légers, soient légers. Shakadosh Baruch Hu, Matre Badam, Pam Rishona, Pam Shnia, Ushlishi. Mais nos choser. Vous n'aurez libo minatushuva, kede l'ifroi mimeno ma shechata. Afkan paro arasha, qui van chez Shigarlo akadosh bochu, chamesh pamim. Veloish guia rase, amar akadosh bochu, ataik shita or pecha, venata choser becha, arini mosif lecha tuma al tuma techa. Ave omer. Alors, Ish Lakish, c'est intéressant quand même que les interlocuteurs de ce Midrash sont quand même significatifs. Parce que Ish Lakish, tu connais Ish Lakish, sa vie, son œuvre? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, Ish Lakish?
C'était le roi des voyous.
Le roi des voyous, exactement, comme dit monsieur. Un petit clap. Le roi des voyous, c'était un gangster, c'était le chef d'un groupe de gangsters. Et il s'est remis en question et il est devenu quelqu'un de Torah et un des plus grands maîtres de sa génération. Voilà. Tosfot, dans ma sérette Tosfot, dans Maseret Shabbat, dans Perek Aboné, dit que c'était Ish Lakish, était au départ un Bachour Yeshiva, qui a tourné kazakh et qui est devenu un gangster, un grand gangster, chef des gangsters. Et d'ailleurs, il dit au sujet, parce que voilà, donc c'est Tosfot prouve cela. Tosfot prouve cela, il y a plusieurs preuves à ça. Voilà. Bien. Donc ça veut dire que lorsqu'il va dire cette phrase-là, que je vais traduire, il dit que la bouche des hérétiques soit fermée, et là, avec les moqueurs, moque-toi des moqueurs. Ça veut dire, quand quelqu'un veut dire quelque chose d'hérétique, en vérité, c'est, tu peux te moquer de lui parce que la réponse est toujours écrite. Ils te prennent un élément hors contexte, et ils le mettent en relief. Mais si tu vois tout le contexte, tu dis imbécile. Ouais, imbécile. Regarde le contexte. Moque-toi de lui. Akadosh Baruch Hu prévient la personne.
Avertissement.
Des avertissements, des sommations, très bien. Une fois, deux fois, trois fois. S'il ne revient pas, alors Akadosh Baruch Hu lui ferme les possibilités de tchouva. La tchouva lui a été donnée une fois, deux fois, trois fois. Après, Echlas, paf, on ferme. Voilà. Pourquoi il ferme ? Keldé l'ifroa mimeno machechata. Pour encaisser sa faute. Ça veut dire qu'il avait la possibilité. La possibilité lui a donné moult fois. Il n'a pas saisi. Cette faute doit être punie. Comment elle est punie? En lui enlevant la teshuva. De la même manière, Paro, l'impie, Dieu lui a envoyé 5 fois les possibilités de s'amender, et l'osamibo, il n'a pas porté son cœur à cela. Akadosh Baruch Hu a dit, tu as durci ta nuque, tu ne reviens pas, je rajoute impureté sur ton impureté. C'est ça ce que dit le verset. J'ai alourdi le cœur de Pharaon et le cœur de ses serviteurs. Ça, c'est le Midrash. Alors maintenant, il va, le Maharal de Prague. Alors, monsieur, cher monsieur, oui, venez pour la première fois, notre bisu. Nous étudions un passage du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, donc c'est un maître du XVIe siècle. Ça fait 450 ans, et c'est un auteur très très particulier, unique en son genre, et donc on étudie ligne après ligne. C'est pas un cours, j'ai pas préparé, je sais pas où on va, on découvre ensemble, voilà, hein? On découvre ensemble, et petit à petit, par le travail en commun, on essaie de rentrer dans ce qu'il dit. Alors, le Maharal dit, cette expression « je rajoute impureté sur son impureté » « Midazot shakadosh bur mosif tuma al tumato ou davar amok meot » Ce que ce Midrash dit, que l'attitude de Dieu de rajouter l'impureté sur son impureté est quelque chose de très profond. Bon, nous, on lit ça, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de très profond. Ouais, bon.
Ouais, quand même, on ne comprend pas l'intérêt.
Comment?
Ok, Paro est tamé, il fait des averot. Pourquoi on va lui rajouter par-dessus? Ça suffit pas? Il n'est pas assez rachat, enfin, on ne comprend pas. Quoi l'intérêt de rajouter de la touma sur la touma?
Oui, en plus de ça, oui. Ouais.
C'est surtout que ça pourrit la vie aux Juifs quoi, qui étaient en Égypte. C'est-à-dire qu'il peut lui rajouter de la touma, mais sans qu'on prenne nous sur la tête le Shibud Mitzrayim.
Très bien. Tes sentiments humanistes t'honorent. Hein? Non, mais c'est une question très importante. La question que tu poses est une question très, très importante. Je reprends la question de Chaim Hamzalag. Akadosh Baruch Hu veut que Pharaon s'amende, ce que nous avons vu la semaine dernière, pour cela il durcit son cœur. Maintenant, le Midrash Rabba a une autre démarche, presque 180 degrés de la première démarche, c'est que Dieu effectivement lui enlève la teshuvah. Mais Dieu veut l'enfoncer encore plus. On ne comprend pas pourquoi.
Ouais.
Non, il enlève la possibilité de, maintenant de faire teshuva.
C'est ça que ça veut dire. Voilà.
Non, il le dit.
Il le dit.
Il enlève la possibilité de faire teshuva. Pourquoi faire? Pour faire quelque chose qu'on ne comprend pas très très bien, pour l'enfoncer encore plus. C'est ce que Jonathan relève. Mais Chaim relève. En attendant, le peuple d'Israël, il meurt. Fais-les sortir d'Égypte, sauve tes enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui est développé dans le traité Yoma. Est-ce que vous faites la tefila de temps en temps, je me laisserai? Ouais, d'accord. Alors. La Gemara, Daf Ainbet Amoudbet, je crois, c'est dans ma sechet Yoma. La Gemara dit que quand on dit au début de la prière, à El, à Gadol, à Gibor, Banoa, le Dieu grand, puissant et terrible. Gibor, qu'est-ce que c'est? La Gemara dit là-bas que Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à chacun de faire son chemin, même aux impies. Et en attendant, même si ça coûte aux enfants d'Hachem, Dieu ne force pas le chemin des impies, ne précipite pas le chemin des impies, même si ça coûte à ses chéris, les enfants d'Israël. Ça s'appelle Gibor, qu'Hachem aimerait intervenir. Il se force, il se contient pour ne pas. Kovesh. Donc c'est une question importante. Ok, on va voir qu'est-ce que le Maharal dit. Je ne veux pas m'engouffrer dans cette question parce que ce n'est pas le corps de ce que le Maharal va développer. Mais disons, ta question est une question importante. On y va. Midazot, Shakadosh Borou Mosif Touma Atumatam, ou Davar Amokmeot. Ce que Dieu rajoute impureté sur impureté est quelque chose de très profond. Vézé, qui a Teshuvah Shayechel l'Adam Bishvil Shemase Achet, Ba Minadam Asher ou Bal Shinui ou Temura. Le car, El Masa Vechatayim Shelo Nirshavim Masim Gemurim. Qui a massé Nirshav le fit à Osé. Véa Osé ou Balgouf, Bal Shinoui ou Temura. Af amassé Shelo, Eno massé Gamour. Je mettrila ba amassé mina Adam, Asher Efchar, Che Yeshane, massé Shelo, Minra, Letov. Le fika Yachol, le Chanot, Massa, Betushuva. Vé Nirshav amassé, Kelo Ayam et Olam. Aval, il m'a très beau. Aada, veatra, zot, osimlo, shemasav, shelo, nirshavim, maase, yoter, share, eil, velo, shama, zeu, maase, gamour, bevadai, az, noel, akadosh, bochou, mimeno, darke, teshuva, merbid, et libo. Je vais traduire, parce que je suis bon. Mais, Emmanuel, je pense que tu as bien compris qu'est-ce qu'il dit de Maharal.
Oui, c'est clair.
Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il dit?
Alors, ce qu'il dit, c'est que, a priori, l'homme est sujet à changer. L'homme est un être dynamique, donc son acte aussi, il est sujet à changement. Et donc, ok, il a fait une faute, mais potentiellement, par la teshuva, cette faute peut être annulée. Et en revanche, lorsque l'homme, une fois que l'homme a reçu la hatrara, la sommation, ça donne à sa faute un caractère plus permanent. Parfait. Ça, c'est ce que j'ai compris.
Ah. C'est parfait. Nous sommes dans un espace de perfection. Donc, je reprends. C'est parfait, c'est ce qu'il dit. Donc, je reprends ici. Donc, ici, le Maharal nous donne une analyse de qu'est-ce que c'est la teshuva. Prenons un exemple. Tu as un ado, un adolescent, qui se cherche, comme on dit. Il se cherche. Pour se chercher, il va à droite, il va à gauche, il cherche, il va à droite. À un moment, il croyait que c'était la folie furieuse. Il lui dit, bon, c'est nul. Il va chercher autre chose. Après, bon, il fait son expérience. Donc, ça veut dire les actes qu'il a faits, c'est lui qui les a faits, bien évidemment. Mais quelque part, il y a un côté aléatoire. Ce n'est pas pensé, voulu, assumé. D'ailleurs, c'est un ado. Un ado, il n'a pas d'expérience. Il essaye. Donc, ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Mais ce n'est pas l'essence de lui. C'est parce que le Maharal dit, l'homme est sujet à changement constant. On est des êtres sujets à changement. Comment ?
C'est pas son
rateur. Très bien. C'est pas sa pensée véritable. Il n'a pas le recul. Il croit que oui. Il dit, qu'est-ce que, ce que tu fais ? Évidemment. Mais tu dis, je ne sais pas, moi, il s'en tiche d'une fille. D'accord ? S'en tiche d'une fille. Un jeune de 19 ans, s'en tiche d'une fille. J'ai dit, cette fille, c'est pas pour toi. Mais non, papa, tu n'as rien compris. C'est vraiment, je sais très, 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 très bien. Ouais, c'est vraiment la fille qu'il me faut. Papa, tu n'as rien compris. C'est tout à fait la fille qu'il me faut. Je te dis, avec un peu de recul, c'est pas du tout la fille qu'il me faut. Mais non, papa, je sais très, très bien. J'ai compris qu'est-ce qui se passe. Je sais très, très bien ce que c'est la fille qu'il me faut. Il sait pas. Il sait pas. Il croit. Il sait pas. Alors, une fois qu'Hachem, à Kadosh Baruch Hu, le Boré Olam, prévient, c'est pas pour toi. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Une fois, deux fois, trois fois. Là, la volonté véritable se construit. Et quand Pharaon, finalement, au bout de cinq fois, ne veut pas écouter Dieu, c'est qu'au fond de lui, il ne veut pas écouter. Ce n'est pas aléatoire, c'est véritable. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc là, la teshuva n'a plus de place. Parce que la teshuva, c'est le côté aléatoire de nos actes. Comme dit le verset qui est rapporté dans la Gemara Yoma dans le sujet de la teshuva, « Shuvu banim shovavim »« Revenez, enfants prodigues, les enfants qui vont à droite, à gauche, revenez, banim shovav, shovav, c'est un enfant qui se disperse, tu vois, un enfant qu'on n'arrive pas à tenir, hyperactif, hyperactivé comme on dit, hyperactivé, hyperactivé, il se cherche, tu vois, comme un enfant qui se cherche, mais là il ne se cherche pas, comme tu as dit, c'est son ratson n'est pas de chou, c'est la volonté véritable.
Ce que je ne comprends pas là, c'est que dans ce cas, même si on ne lui endurcit pas le cœur, ça ne changera rien. Parce que c'est son racine véritable, c'est plié. De toute façon, c'est le choix qu'il fera. C'est quoi cette histoire de lui endurcir le cœur?
Regarde, on va essayer de continuer. Je ne sais pas répondre à ça. On y va. Regardez, quatrième ligne avant la fin de la colonne de gauche. Quatrième, comment, excuse-moi.
Le principe de la Kshita est là, ouais. On a dépassé son Ratson. C'est ça aussi le lien entre ces deux parcours. Il y a vraiment peut-être une volonté de permettre à Paro la Tshuva. D'abord, il lui fait révéler que son Ratson, il est dans le mauvais sens et il doit le dépasser. Il doit avoir un mouvement de changement qui va jusqu'au Ratson.
Oui, et il est arrivé au Ratson qui ne veut pas écouter Hachem.
Voilà. Voilà. Peut-être qu'on espérait la possibilité.
Alors, chez Kodemze, quatrième ligne avant la fin de la colonne. Chez Kodemze, Akadosh Bokhout sofé la racha chez Yeshane et Maasav. Shumuchan el Ashinui Utemura, Veshane Otam el Atov. Avant, Akadosh Bokhout attend que l'impie change ses actes. Car l'homme est prédisposé au changement et à la temoura, c'est-à-dire on a des périodes qui changent, des périodes comme ci, des périodes comme ça. On passe à la page d'après. Là, voilà. Aval. Et qu'il change vers le tof. Aval kacher asazé chitrabo. Une fois qu'il a fait sommation, vélo shama, on passe à la page d'après, vélo shama, et qu'il n'a pas écouté. Akadosh Bokhu mosiflo tuma al tumato. Akadosh Bokhu rajoute impureté sur son impureté. Le fichezé ou mouchan et la tuma, vélo et la teshuva. Maintenant, il est prédisposé à l'impureté et pas au repentir. Et kacher ou mouchan au selo kede lipara memeno. Étant donné qu'il est prédisposé, donc Dieu durcit son cœur pour le punir. Vadvarim, alors regardez, c'est intéressant parce que quand j'ai étudié ça, je ne sais plus quand, dans mon livre, j'ai souligné ces phrases. On va essayer de les prendre doucement. Vadvarim elu amukim meod. Af kinirim shem niglim veyedouim. Ce que je viens de dire est très profond, quand bien même cela paraît simple et évident. Kinoel akadosh brud darket shuva. Car Dieu ferme les portes du repentir. Chatra shover nire sheu chote besichlo ubedato. Venteshuva rak les taout shuba minaguf adam lo minadat. Donc ici c'est une innovation, me semble-t-il, c'est quelque chose Je comprends ce que dit le Maharal quand il dit que c'est très profond. C'est tellement profond que je ne sais pas si on peut vraiment expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Comment ? Une petite seconde. Je reprends. Ces choses-là sont très profondes. Elles paraissent simples, évidentes. C'est quoi ? Que Dieu ferme les chemins de la Teshuva. Car la sommation de celui qui transgresse semble qu'il faute par son intellect et sa pensée. Or, ici, cette phrase est une phrase clé. La Teshuva est seulement pour une erreur. L'erreur vient du corps, pas de la pensée. Alors, ça me fait penser à Yom Kippour. À Yom Kippour, vous savez qu'on offre des boucs. Hein? Il y a un bouc qui va dans le Saint-Dessin, le sang vient dans le Saint-Dessin, et un bouc qui est envoyé à l'Azazel. Et dans Parashat Acharemot, s'écrit Venasa Aseir Achai et Kol Avonotam. Il portera le bouc vivant toutes leurs fautes. Alors, une seconde. Ah, j'ai pas mon papier. Une seconde, je vais chercher du papier, un stylo et on va faire un petit tableau.
Je propose, je peux pas dire non.
Je m'en souviendrai. Je propose.
Alors, il portera le bouc vivant. Et kol, donc c'est dans parashat acharebot. Et kol avonotam. Toutes leurs fautes.
Mon kol.
Et kol. Une fois que le bouc a été jeté de la falaise, toutes les fautes des enfants d'Israël sont expirées. C'est ça Yom Kippour. Il n'y a qu'un parent.
C'est un peu traité Avon et Pécha ou c'est que...
Oui. Oui. D'accord. Maintenant, même Rabbi, l'auteur de la Mishnah, pense que même les enfants d'Israël qui ne font pas de Shuva à Yom Kippour, Yom Kippour apporte un tel souffle de pureté que ça les fait faire Shuva et ça expulse. C'est pour ça. Aujourd'hui, Yom Kippour, que nous n'avons pas le temps, Yom Kippour fait kapara que si on a changé nos actes. On a changé nos actes, mais il faut expiation. Quelqu'un qui, de nos jours, n'a pas changé ses actes, Yom Kippour, quand il n'y a pas le temps, ne fait pas expiation. Et lorsqu'il y a le temps, la sainteté que crée le service à Yom Kippour expie même pour ceux qui n'ont pas fait de chose. Mais, le Midrash dit « Avonot Tam oh. ». Parce que Yaakov est appelé « Ishtam » et Esav est appelé « Ishsaïr », un homme poilu. Alors, les Chachamim expliquent que Yaakov, il est « Ishtam » et on dit qu'il est « Chalak », il est « Lisse ». Ça veut dire que les enfants d'Israël, quand ils fautent, ce qui arrive, j'ai rencontré des gens comme ça, ça arrive. C'est bizarre, mais ça arrive. La faute est superficielle, elle n'est pas intérieure. Elle n'est pas incrustée dans la personne. C'est extérieur. En vérité, les enfants d'Israël, et ça, c'est quelque chose de très profond. Quand le Maharal dit c'est profond, c'est profond. Qu'un enfant d'Israël, même si il va faire les choses les plus invraisemblables, il se cherche.
Oui, mais ça, c'est un débat, non ?
Allô ?
Il y a beaucoup de penseurs qui pensent qui est pas d'accord avec le Maharal de Prague. La paracha Korah, en disant je suis structurellement saint, c'est une opposition au schéma qui dit vous serez saint.
Attends, doucement. Arnaud, je veux bien regarde, j'essaie de terminer ma tirade biblique, là. Je t'écoute. Non, ça veut dire que d'après beaucoup de nos maîtres, les enfants d'Israël, même s'ils font des choses invraisemblables, en vérité, ils se cherchent. La faute n'est pas intérieure, elle est superficielle. C'est ça, avonot tam, que le Yaakov qui est tam, ça veut dire il est chalak. La faute, il y a des fautes, mais elle glisse. C'est ça ce que dit le Maharal. Ça vient du corps, mais pas du profond. Pas du profond. Tandis que Essav, la faute, elle est consubstantielle. Et là, c'est ça la Touma. C'est ça la Touma, la faute consubstantielle. C'est ce que les Chachamim disent dans le traité Souka. Les Chachamim disent que les nations idolâtres n'ont pas d'Yetzerara. Alors quand on dit ça, c'est des... Comment ? Les nations idolâtres n'ont pas d'Yetzerara. Ah, t'es perplexe. Ouais. Ils n'ont pas d'Yetzerara. Non, les Chachamim disent qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui a du Yetzerara. Et particulièrement les Talmidei Chachamim. Les érudits en Torah, c'est eux qui ont le plus de Yetzerara. Évidemment, parce que c'est une bagarre. Une fois, je vais vous dire. Moi, j'ai découvert ça une fois. Une fois, à l'époque, vous savez, il y avait des taxis. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des Uber. Mais à l'époque, il y avait des taxis. Et je devais aller assez loin de Paris, dans une grande banlieue. Donc, c'était une course assez longue. J'ai pris un taxi. Et le taxi, souvent, je sais pas, ça doit vous arriver aussi de discuter avec le mec du taxi. Hein, c'est bon. Le mec, il dit, moi aussi, je vois que vous êtes rabbin. C'est très, très bien, vraiment. Je suis très honoré de conduire un rabbin. Je pense aussi, effectivement, que c'est très, très important d'avoir des valeurs morales dans la vie. Quand quelqu'un me parle comme ça, je sais que ça va mal tourner. Je sais que ça va mal tourner. OK, à un moment, il fait le plein et il prend une glace, un cône, vous savez, une glace Gervais, un cône. Le mec. Il dit, bon, c'est vrai, les valeurs morales, c'est très important. Mais moi, vous savez, j'aime aussi le plaisir. Et pour moi, prendre une glace, un cône, c'est vraiment un plaisir. Je ne sais pas où il va, celui-là. Il continue. Après, il me dit, vous savez, moi, les femmes, c'est comme les glaces. Il est parti. Les femmes, c'est comme les glaces. Moi, je prends une glace, je prends une glace. C'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant. C'était très intéressant. Là, j'ai réalisé ce que les Chachamim disent. Pour lui, ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème. C'était, comme il a dit, pour moi, une femme, c'est comme une femme. C'était très profond. Je pense que c'est ça ce qu'il dit le Maharal. C'est très profond. C'est profond. C'est très profond. Un enfant d'Israël, je vous donne un exemple. Par exemple, l'exemple d'un juif, d'un mauvais juif. Par exemple, Serge Gainsbourg. Ce n'était pas un chassid, ce n'était pas un rabbi. Hein. C'est plutôt un mec un peu mal barré. Quoi. Mais, de toutes ses paroles, tu sens qu'il recherche la sainteté. Il ne la trouve pas, mais il la recherche. Il la recherche. Il ne la trouve pas, il ne sait pas où elle est.
Il donne.
Mais il cherche. Par exemple, il y a des chansons même presque dégoûtantes. Par exemple, il y a comment il appelle ça ? Des relations sensuelles et sensuites. Vous connaissez la chanson ? C'est sublime. Tu connais la chanson de Gainsbourg ? Ça veut dire... Il dit sensuel et sensuite. Et c'est exactement, tu vois, ça c'est le juif. Sensuel et sensuite. Ça veut dire, et le mec, comment dire, ça le désespère. Il ne sait pas comment sortir de ça. Comment sortir, j'aimerais avoir une vraie relation, mais je ne sais pas comment. Et il est désespéré, il souffre. Mais, il attend quelque chose, il ne sait pas le trouver. Mais en vérité, il a l'intuition qu'il y a autre chose que ça. Il n'a pas trouvé, mais il y a une attente de quelque chose, une attente de sainteté. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les goyim, ils en font un dieu, parce qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient, un univers. Et ça, pour eux, c'est une innovation, un type comme ça, qui est dans la dépravation et qui arrive à transcender cette dépravation en en faisant un poème. Et pour eux, c'est Jésus-Christ. c'est un dieu. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, vous savez qu'il va y avoir, après la ligne 11, la ligne 11 va aller jusqu'à Romainville. La ligne d'après Mairie des Lilas, ça va s'appeler Serge Gainsbourg. La station Serge Gainsbourg. Ouais, je te promets. C'est normal. Non, tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Qu'en vérité, ce que ici, ce qui est le Touma, ça veut dire que la Tchouva n'a pas de sens chez Pharaon. C'est ça ce qu'il veut dire. On ne peut pas le dire. C'est ce qu'il dit.
C'est parce qu'il n'a pas dit ça. Hein.
Comment ?
S'il n'a pas dit Sahara, du coup, est-ce qu'il y a.
Il n'est pas dans le monde de la Tchouva. La faute est pratiquement consubstantielle. La faute est consubstantielle.
Est-ce qu'il y a une possibilité de
Tchouva ? Oui, mais c'est ça qu'on ne peut pas dire.
Oui, c'est ça qu'on est en train de faire.
C'est ça qu'on est en train de dire.
Et je suis surpris dans le sens de ce que tu dis, ça veut dire parce qu'il y a quand même très ce côté, cette même marque, c'est-à-dire qu'il y a des mitzvot à faire aussi pour les.
Oui, mais la Gemara dans le traité Baba Kama dit qu'ils ont laissé tomber les lois noachit. C'est longtemps. Ils ont même, ils disent qu'un goy qui fait cette loi noachit, c'est non, mais ça veut dire c'est artificiel pour lui. Ça fait pas partie de son être. C'est pas son essence. Donc là ici, quand dit le Maharal, que c'est très profond, c'est presque indicible. C'est presque indicible.
Le dat, c'est comprend. Quand on parle de profond, il parle de dat. Le dat, c'est pas le plus profond qu'on a. C'est peut-être la volonté, ça serait plus profond. La volonté.
Le dat, c'est ça. C'est la volonté.
Le dat, c'est pas la volonté. Le dat, c'est la réflexion.
Non, c'est pas la réflexion. C'est... Le dat, le dat, ah, c'est la, sens, c'est
d'un homme, c'est ça,
c'est le centre, c'est le centre, ouais,
c'est
de son être.
Oui, mais c'est...
Le dat, c'est le positionnement de l'être. C'est pas intellect. C'est pas intellect. Non, non, c'est pas l'intellect. Le dat, c'est pas l'intellect.
Il y a un niveau, il y a un niveau. C'est le chemin par sa
vie. C'est ce qui le véhicule. Ça veut dire que là, il a. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Faire tchouva, c'est pas son problème. Alors, Dieu va pas l'aider à faire tchouva.
Je comprends tout ce qu'on a dit, mais théoriquement, j'arrive pas à dire. C'est une contradiction. Si Dieu, il a créé une personne pour faire du bien, donc que ça soit juif ou un goy, il a créé pour faire du bien, quoi, pour faire sa volonté.
Il n'y avait pas de Dieu au début.
Bon, il a créé des gens pour faire sa volonté, un petit peu quand même. Donc, il y a un moment comment c'est possible que la personne elle puisse se dépraver au point qu'il devienne lui-même dépravé et qu'il puisse plus faire choix. C'est pas possible.
C'est peur, ouais.
Non, c'est pas qu'il devient dépravé, c'est qu'il dévoile ce qu'il est.
Bah alors ça veut dire qu'il était mal.
Pharaon, le mot pharaon, c'est un dévoilement.
Alors, il
froid, mal, par exemple, la péria, quand on fait la circoncision, oui, il y a Mila et péria. Péria. Hein, après avoir la circoncision, on dévoile le gland. Ça s'appelle Peria. C'est dévoiler. Pharaon dévoile ce qu'il est.
Donc il était mal.
Comment ?
Donc Hachem, il a fait une créature pour lui. C'est d'abord.
Non, il est trompé. Non, il n'était pas d'emblée comme ça. Ouais, c'est parce qu'il a refusé les atroces qu'il est devenu comme ça.
Comment il peut devenir comme ça? C'est juste ma question. Comment il peut devenir comme ça?
En refusant, malgré.
Il faut dire qu'il n'est pas devenu.
Malgré les avertissements, en persistant.
Mais non, on vient
dire. C'est ce qu'il dit,
il a construit sa volonté. Ouais. Il a construit sa volonté.
C'est difficile à comprendre. C'est un peu difficile à capter comment il a réussi. Comment il a la
place. Si tu veux, c'est comme un comment dire, tu tapes sur quelque chose pour l'endurcir. Voilà, tu lui tapes dessus. Toi, tu lui tapes une fois. Ouais, bon, ouais. Mais à la fois, au départ, tu vois, je sais pas, t'as un gosse. il ne veut pas faire ses devoirs. Ouais, tu fais tes devoirs.
Il y a la parole. Ouais.
À la fin, tu ne vas pas le un petit truc comme ça. Tu le fais réagir. Comment ?
Je vois, même si on l'a rendu dur, on l'a tapé, on l'a rendu dur, c'est sûr qu'on peut le retenir.
Tu le fais réagir, tu le fais réagir. Alors, ça veut dire que tu le fais réagir, okay, tu le fais réagir une fois, deux fois.
C'est qu'une réaction.
Non soi,
et la preuve qu'il peut perturber encore, c'est qu'on l'a endurci son cœur. C'est la preuve qu'il pourrait perturber si on ne l'avait pas endurci. S'il a besoin d'une action pour l'endurcir son cœur, ça veut dire qu'il pouvait faire, tu vois.
Attends, que les choses soient précises. Le Maharal dit que chacun, alors je reprends un peu ce que dit Jonathan Serrer, chacun agit, comme dit l'autre, on se cherche, on se machin. Des fois, on fait des mauvais choix, on est dans ces mauvais choix, ok. Alors, Dieu te provoque, te montre où les choses se passent, te donne une claque, te donne une claque pour que tu réagisses. Alors, si tu continues ton chemin, les actes qui jusque-là étaient un petit peu aléatoires, le fait que tu t'accroches à cet acte montre que tu veux ta démarche. Ta démarche qui jusque-là était au petit bonheur, maintenant tu la veux. Maintenant que tu la veux, ce n'est plus au niveau du gouf, c'est au niveau du da'at. Au niveau du da'at, il n'y a plus de tchouva. Alors là, maintenant, Dieu enlève la possibilité de faire teshuva. Il enlève, parce que ce n'est plus adapté à cet être de faire teshuva. Il est complètement dans son truc. Au départ, les choses étaient ouvertes. Mais à un moment, il s'est enlevé les portes de la teshuva. Il n'est plus dans la teshuva.
Ouais, mais
il n'est plus. Il est dans la dimension. Dans une dimension, je reprends. C'est Michael, au niveau de la volonté. La volonté n'est plus au niveau du corps. C'est plus de l'aléatoire du corps. Il me semble, quand il dit que ça c'est profond parce que ça touche une dimension métaphysique de toute humanité. Bon, maintenant, vous allez dire comment ça se fait que les Chachamim disent que les nations n'ont pas de Serrara, machin, machin. Moi, j'ai voulu faire le rapport avec ça. Il me semble que ça aide à percevoir, surtout que on vit, on a l'expérience, on confronte. Dans une société ouverte comme la société parisienne, on a l'expérience. On sert, on discute. Allô?
Avec deux, trois avertissements, ça y est, il a prouvé que c'était sa volonté profonde et il s'est changé, etc. Peut-être qu'il est juste dans son délire et qu'avec les données qu'il a actuellement, il voit qu'il a raison, c'est tout. Et qu'en fait, ce n'est pas sa volonté profonde s'il arrivait à vraiment être plus mûr, à être lui-même. Comment on arrive à prouver ? Parce que c'est HM qui lui a parlé, c'est tout. C'est-à-dire, la tra, elle doit venir absolument d'HM, pas d'un être humain.
Je ne sais pas. Non, mais ici, la tra, elle est particulièrement claire. Il y a Moshe qui vient.
Il y a son empire qui est en train de s'écrouler, mon ami.
Au départ, on dit qu'il a refusé, entre guillemets, les portes de la tchouva, parce qu'il voulait, que ça vienne de lui. Il aurait pu le faire plier en une seule fois.
Voilà.
Donc ça veut dire que déjà, c'est la volonté d'Hachem de ne pas lui donner la possibilité de faire tchouva tout de suite.
Non. Ça, c'était un premier chemin,
ouais,
d'explication. Maintenant, le Maharal donne une explication un peu antagonique.
D'accord. Mais ça peut aller ensemble.
Non, mais au départ, les cinq premières plaies.
Les cinq premières plaies, donc.
Dieu n'a pas durci son cœur.
C'est ça.
Non, c'est seulement la sixième.
Bon, le truc que je ne comprends pas et qui me laisse penser qu'en fait, je n'ai pas compris du tout l'explication, c'est que dans ce cas-là, c'est par lui-même qui s'est endurci son cœur. C'est pas Kadosh Bokhu qui lui a rendu ce serviteur. Ce qu'on est en train de dire, c'est que Paro est responsable de la situation dans laquelle il est. Le passage qui dit, c'est Hachem qui lui a endurci le cœur. Et je trouve que ça ne colle pas.
Est-ce que donc, j'ai pas compris. Le passage, tu peux parler d'après. Tu parlais d'appartement de la sixième
plaie. Non, mais forcément, non, ça revient au même. On dit que c'est Paro qui est responsable de ça. Ce n'est pas Hachem.
Au début.
Si, si. Mais ça revient à la même question. C'est quoi rajouter de la Touma à la Touma? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Hachem quand il endurcit le cœur de quelqu'un qui ne peut plus faire teshuva? Il n'a rien fait à Kadosh Baruch Hu.
Rashi a une autre démarche sur ce sujet. Il dit pourquoi Dieu durcit le cœur de Pharaon? Il dit parce que les nations idolâtres, Elahem Lev Shalem, la chou. Ils n'ont pas un cœur entier offert de chouva. Ce n'est pas leur problème. Le Am Israël, ça c'est quelque chose, je vais vous dire, moi c'est quelque chose personnellement qui me fascine. Une seconde, on a vu, je ne crois pas avec vous, j'ai vu dans un autre groupe que quelque part les enfants d'Israël sont toujours proches d'Hachem. Même lorsqu'ils font, ils sont proches d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui est très très particulier. C'est quelque chose qui a été beaucoup développé, évidemment, par Rav Nachman Breslav. Mais c'est quelque chose de traditionnel. Que tu as un juif, vous savez, il y a la chanson « Afilou, be, comment dire ?» Comment c'est la
Astara.
Oui, « Astara ».«
Be Afilou, be Astara, Shebetoch Astara ».
Voilà. Même dans les choses les plus sombres, les plus obscures, eh bien, Hachem, il est là-bas. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très particulier. Et d'ailleurs, on peut voir, d'ailleurs, quand on étudie, on, un peu dans nos études, il se trouve que la plupart d'entre nous, dans nos groupes d'études ici, chez les étudiants, on a un peu des connaissances, un peu de tout ce qui se passe un peu dans le monde. C'est un peu bizarre, bon, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais bon, c'est comme ça. Mais on voit parfois que même, je vais donner Gainsbourg, mais même dans des juifs, par exemple, j'ai étudié là à 13h, de 13h à 14h dans le traité Kiddushin, on a étudié des choses sur la Shemitah. La Shemitah, c'est communiste. Point, Nekuda. La Shemitah, c'est communiste. C'est communiste. Ça veut dire, Marx, qui était complètement laïque, qui ne connaissait rien de judaïsme, en vérité, il avait une recherche de judaïsme. Vous savez, j'ai connu, il y a 18 ans, il y a 18 ans, juste 18 ans, pile poil 18 ans, parce que mon premier petit-fils est né il y a 18 ans à Jérusalem. Et j'étais allé pour sa naissance avec mon épouse. Et il y a un grand écrivain qui était vivant à l'époque que je voulais rencontrer, Aaron Appelfeld. Il y a juste 18 ans, je voulais rencontrer Appelfeld. Et j'ai rencontré Aaron Appelfeld, il y a 18 ans juste. Je l'ai rencontré dans un bistrot à Jérusalem. Et il m'a dit, d'ailleurs il l'a écrit, hein, il m'a dit, mais bon, c'est les gens un peu âgés, ils se répètent un peu, donc c'est des choses qu'il a dit ailleurs, hein, mais il me l'a dit aussi de vive voix, que lui, il a connu les gens les plus proches de Kafka, Franz Kafka, et qui lui ont dit que Kafka, qui est considéré peut-être le plus grand écrivain du XXe siècle, qui a inventé la littérature moderne, il n'avait qu'une seule recherche, c'est de retour à la Torah. Kabbaliste, c'est lui kabbaliste, moi je suis astrophysicien, je veux dire. Comment, amateur, bon, d'accord, comme toi, je veux dire, toi aussi, t'es cabaliste amateur, t'as quelqu'un de signé dans ta bibliothèque. Non, pas beaucoup plus, mais non, non, pas beaucoup plus. Il a écrit dessus, quand même. Un peu, bon, il était doué, mais pas plus que toi. Un peu, disons, comme toi. Mais tout ça pour dire que Kafka était quelqu'un d'extrêmement, c'était pas quelqu'un de froume, c'était pas quelqu'un de froume. Mais quand tu creuses ces gens paumés, en vérité, ils n'ont qu'une recherche, c'est la recherche de judaïsme. Et ça, tu peux le voir dans tous les juifs, même les plus anti-juifs, ils ont une recherche de judaïsme. Ça, c'est très, très particulier. Il y a une recherche de Teshuvah. Qu'en vérité, même la faute, j'ai discuté il y a quelques années avec le fils d'un grand rabbi. Vous savez, le rabbi de Toldot Avraham Yitzhak à Jérusalem, à Tamakir. Alors, il y avait son fils qui venait il y a quelques années à Paris. Et on a discuté un peu que ici à Paris, il y a le judaïsme religieux, c'est surtout des séfarades. Bien qu'en vérité, il y a énormément d'ashkenazes à Paris. Il y a énormément d'ashkenazes, énormément, mais complètement à la masse. Voire, leur parle de Torah, ils ne veulent pas entendre parler de Torah. Il m'a dit une très jolie chose, ce fils de rabbi de Toldot Avraham Yitzhak. Il m'a dit, parce que souvent dans l'âme ashkenaz, quand ils font, leur âme profonde a tellement honte qu'ils te disent je ne peux pas faire le choix. Ils ont tellement honte qu'ils préfèrent nier Dieu parce qu'ils ont trop honte. Ils ont trop honte. Tandis que excusez-moi l'expression, il m'a dit la plupart des séfardim, pas tous, la plupart des séfardim, même s'ils font les mêmes fautes, quand ils voient un séfer Torah, ils se disent « Je suis chez moi. » Dans un ashkenaz, ils voient un séfer Torah, ils disent « Mais moi, qui suis tellement loin, le Torah, c'est rien! C'est une poubelle! Non, qu'est-ce que c'est que cette poubelle? C'est à cause de cette poubelle qu'il y a des problèmes dans la vie. » Voilà. Mais en vérité, ce refus de Torah est une honte par rapport à la Torah, parce qu'ils ont honte, ils croient qu'ils sont grillés. C'est une déception. Une déception. Donc quand le Maharal dit que c'est profond, c'est profond. C'est profond. Cette problématique, elle est très profonde. Là, quand il dit c'est profond, c'est profond.
Oui, c'est la honte, pas de la peur.
Comment ?
C'est la peur ou de la honte ?
C'est
de
la honte.
Ah, ça a toujours la même chose.
Comment ? Qu'est-ce que tu dis ?
Je pense que ça vient du monde occidental. Cette honte de ne pas pouvoir revenir. La culpabilité de ne pas pouvoir revenir. C'est pour ça que
elle est bonne.
Dans le monde sfarad, c'est pas vrai. On est dans une simplicité.
Non, il est bien. Elle est bonne. Voilà, ils ont trop sucé le catholicisme. Elle est bonne. C'est la culpabilité, trop de culpabilité. C'est bon.
C'est dur, hein, le mental.
C'est
très bien.
C'est dur de sortir de là. 2000 ans, c'est...
Oui, très bien. C'est très, très bien. Et vous avez entendu ce que... Il y a un nouveau, là, vous ne l'avez pas vu.
Ah, pour une première intervention, il a bien...
Ah oui,
très bien. Hein.
C'est la culpabilité là qui a, oui, très bien.
C'est pas mal.
Ouais.
Ok. Je sais pas, c'est ça, rien à voir. Ça me fait penser, parce que là, beaucoup d'idées se mêlent. J'essaie de me voir un peu ce que j'arrive à comprendre tout ça. Et on voit que Paro a un chemin. On ne sait pas trop vraiment s'il a été chouvant. On ne sait pas encore. S'il peut ou non faire teshuva, s'il pouvait, s'il a arrêté de pouvoir. Et le fait d'avoir dit peut-être que les nations
structurellement ne sont pas liées à l'idée de Teshuva, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire que, comme on dit que le peuple juif est devenu un peuple, un collectif, du fait des fautes de l'humanité en quelque sorte, pour compenser, parce qu'il fallait un collectif qui soit des Edim pour Hachem, est-ce que c'est justement pas ça qu'on est en train de dire, que même la Teshuva des nations, elle est entre guillemets entre nos mains? C'est-à-dire que, est-ce que ce ne serait pas le peuple juif qui porte cette Teshuva, voilà, qui ne fait plus partie de la structure des, voilà, nations?
C'est quelque chose de très très important. Le je reprends ce que dit Antoine, et moi je ressens cette histoire, par exemple là, des trois mois que nous avons vécu, c'est des trois mois et demi que nous avons vécu là maintenant, que moi j'ai ressenti, par exemple les maîtres aujourd'hui de Torah, beaucoup ont dit des choses très 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 profondes, très belles sur le coronavirus, etc. J'ai entendu des maîtres en Israël ont dit des très belles choses. Je ne sais pas si vous avez vu sur notre site, on a mis la lettre de Rav Reuven Lorter. Tu as vu, Chaim? Tu l'as lu, hein? Il y a des très belles choses. Des Chachamim ont dit des très belles choses. Par contre, j'étais sidéré que dans le on en a déjà parlé, que dans la société dans laquelle nous vivons, j'ai entendu beaucoup de niaiseries, mais pas vraiment des choses profondes. Peut-être, c'est bien ce que tu dis. Mais j'ai ressenti…
Qu'est-ce qu'il a dit, pardon?
Comment?
Qu'est-ce qu'il a dit, on n'a pas
entendu. Peut-être, ça va venir, peut-être, ouais. Dit Antoine, peut-être avec du temps.
Ouais.
Mais je reprends ce que tu dis, Antoine, qu'il est possible que le monde de la Teshuva, c'est nous, on a la responsabilité, pas seulement pour nous, les enfants d'Israël, mais pour l'humanité. Que si nous, on sait que la Teshuva est possible, et c'est les nations, elle est presque disparue, on ne la sent pas, elle est presque disparue, c'est que nous, on a une responsabilité d'assumer de faire Teshuva, pas seulement pour nous, mais peut-être même pour les nations.
On dit que quand Yves Béron, que nous, on a fait ça et qu'on est unis, alors ils comprendront.
Voilà,
c'est ce qui est dit sur le. Ils vont voir.
Ok. Alors on va continuer.
Juste un petit moment, peut-être que à partir du moment où c'est Hachem qui est remis en cause, parce que finalement Paro c'est ce qu'il fait. S'il remet Hachem lui-même en cause parce qu'il refuse d'écouter l'ordre de Hachem, alors Hachem il peut plus entre guillemets se justifier, juste prouver que lui-même il est bien. Alors que quand il accorde la tchouva à quelqu'un, c'est comme il lui dit, bon, écoute, c'est bon, je suis toujours à ma position, tu m'acceptes en tant que Dieu. Et ok, je t'accorde le bénéfice du doute parce que tu ne m'as pas remis moi-même en question. À partir du moment où on me remet lui-même en question, bah, il ne peut plus rien. Et en fait, c'est comme si les pieds et poings liés, il ne peut plus rien faire en fait. Il ne peut plus rien donner en fait.
Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a pas de lien. Voilà, il n'y a pas de kesher.
Il n'est plus Dieu tout simplement à nos yeux. Et du coup, ben, oui.
Oui, il y a un refus.
Et peut-être que si Paro lui-même, recrée le lien, peut-être qu'il pourra faire choix après.
Il est vrai d'ailleurs qu'il y a un avis qui dit que l'Onichar dans la mer Rouge, l'Onichar Adécha n'est pas resté jusqu'à 1, il y en a qui dit que Pharaon finalement a fait le choix. Et qu'il y a un avis dans le Midrash qui dit que lorsque Jonas est arrivé à Ninive pour qu'il fasse Teshuva, le roi de Ninive, c'était Pharaon. Donc, voilà. C'est notre étude, ça s'appelle Redemption. Redemption. On y va. Kemoshim Alemala, et Pasu Karalo Veyochal Lachem. Comme on a dit plus haut, appelle-le et qu'il mange du pain.
Au sujet des filles de pays.
Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Tu vois, Manu, qu'est-ce qu'il veut dire, l'amiral de Prague?
C'est au sujet des filles de Yitro, mais je ne me rappelle pas ce qu'on avait vu là-bas.
Mais qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la Teshuva? Je n'ai pas compris.
Je ne me rappelle pas qu'il ait parlé de la Teshuva là-bas. Non, si. Ah non, ça me revient.
c'est Tzipora qui est légère. C'est la notion de tshuva, de légèreté. Et donc, et Dieu a expliqué que les guérim, lorsqu'ils ne peuvent pas renoncer à la bonne assiette du terroir, lorsqu'ils sont rattachés comme ça aux promères, ils ne peuvent pas finir leur guéroute. Et donc, c'est lié à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand la faute, elle est liée au bouffe, la tshuva est possible. Non, je ne sais plus.
D'accord, mais là, ce n'est pas sur les mots. Appelle-le qui mange du pain.
Oui, oui, je ne comprends pas. Ouais.
Bon, on va continuer. Le fima, le fisé. Ma shama katoumani akshe et libou. Donc, ce que dit le verset, je durcirai le man rabot moftai. Je durcirai son cœur pour multiplier mes prodiges. Vélo amar qui le car ikshe libo, le fi shitrabo vélo shav. Alors, le verset dit, pas je durcirai son cœur parce que je lui ai fait sommation et qu'il a refusé. Pourquoi le verset ne dit pas la vérité? Pourquoi je durcirai son cœur? Parce que je l'ai fait sommation, il n'est pas revenu. Mais pour multiplier mes prodiges. Zemipne sheshkan tam shelo ikshe libo bishvil le maer otsat Israël shikar ashlichut ou aya bishvil ze. Il fait marquer des larbot moftai akshe et libo. Oui, monsieur.
Je réponds un petit peu à la question que je me posais tout à l'heure, qu'on se posait. Donc, et alors, donc c'est lui qui s'est endurci lui-même le cœur, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Donc, et donc pourquoi le pasouk qui dit pas je lui ai endurci son cœur parce qu'il a fauté et pas pour multiplier mes prodiges. C'est parce qu'il y aurait eu une raison de ne pas lui endurcir le cœur. C'est pour raccourcir justement la souffrance d'Ibn Israël. Et donc par rapport, si c'était seulement Paro qui était responsable de son endurcissement, la responsabilité de Paro par rapport aux souffrances d'Israël, ben tant pis, c'est pas grave, on durcit pas le cœur et on fait sortir l'Ibn Israël. Il y a une autre raison, c'est de montrer
les prodiges,
d'Hachem.
Le dévoilement
d'Hachem. Et ça, ça justifie les souffrances. Et donc, c'est pour ça que le pasouk, il insiste sur cette raison-là, qui maintient l'endurcissement, est responsable de son endurcissement, mais son endurcissement aurait pu sauter pour éviter les tsarotes, mais la raison des prodiges fait qu'on maintient son endurcissement.
D'accord. C'est ça, alors maintenant, je synthétise ce que dit le Maharal. C'est un petit peu difficile, mais d'après ce que tu dis, Jonathan, c'est très très bien. C'est-à-dire, donc là maintenant, il ne fait pas de chouba. Bon, alors maintenant, on fait sortir les enfants d'Israël. On n'y a pas fait de chouba. On fait sortir les enfants d'Israël. Opération, sortir. Non, Hachem a un autre projet de dévoiler toute sa royauté dans sa création. Pour multiplier ses prodiges. Or, s'il multiplie ses prodiges, Pharaon va craquer. Pharaon va craquer. Or, ce craquement n'est pas une teshuva. Donc, Dieu ne veut pas qu'il ait un quelconque repentir. Dieu ne veut pas qu'il ait un quelconque repentir. Donc, Dieu l'empêche de faire ça. Pour comment ça se fait? Parce que, voilà. C'est 180 degrés. 180 degrés. Hein. Voilà. OK ? Bien. Chapitre 32. Alors, on reprend les versets. Alors, nous avons vu quelque chose de très, très important il y a X semaines. Que... Oui, évidemment. Excuse-moi de ne pas y avoir pensé. Bon, messieurs, on termine. Chaïm, un petit. Non. Comment tu retournes là-bas, Anne de Beaujeu? En métro. Bon. Voilà. T'es pas en moto. Là. C'est désolé, il n'y a pas de petits gâteaux ce soir. Je sais pas.
Je crois que je m'arrête.
Alors, ok. Alors, on reprend les versets.
C'est vrai, mais comme quoi,
merci.
Même avec un cœur un peu.
Alors, regardez, on a vu quelque chose d'extrêmement important. La première fois que Moshe et Aaron sont allés voir Pharaon, et ils ont dit à Pharaon, laisse-nous partir 3 jours dans le désert pour servir notre Dieu. Voilà. Là-dessus, Pharaon a dit, qui c'est Hachem pour que j'écoute dans sa voix, sortez, etc. Okay. Question du Maharal. Comment se fait-il que Moshe n'a pas fait les prodiges avec le bâton qui se transforme en serpent, etc., machin, milieu, quand il a été mandaté pour le faire? Réponse qui était extrêmement importante, sur laquelle nous avons développé longuement, c'est que c'était un petit flash. Il y avait un dévoilement de Moshe, qui tout de suite, ensuite, Moshe est parti, parce que les Chachamim disent que Moshe est parti 6 mois. Hein? Moshe est parti 6 mois, a disparu. Comment? Non, ça c'était une autre histoire. Non, c'était bien avant.
Bien avant.
Non, il est parti 6 mois, etc. Voilà. C'était bien avant. Et maintenant, il va en retourner pour la deuxième fois voir Pharaon, et là, il va faire les prodiges. Parce que là, maintenant, ça va être la Géoula véritable. Là, il y a eu un flash de Géoula. Souvenez-vous, on a beaucoup développé ça, n'est-ce pas, Manu?
Oui, le chevreuil. Domé Dodi, Litzvi. Pour les refaire à Yalim. Donc, voilà. De même qu'un en forêt de Chambord, le chevreuil, je le vois, je ne le vois pas. Je le vois, je ne le vois pas. Et donc là, la Géoula, elle vient et elle part.
Bien. Alors, maintenant…
Ça marche aussi avec la forêt de Compiègne. Hein. Non,
je l'ai… Rambouillet.
Oh, Rambouillet, oui.
Alors, verset Vav, chapitre Zayin, verset Vav.
Ah non, et c'est pour ça qu'on a dit… Dans la Amida, c'est pour ça qu'on dit et tsemar David avdecha meira tatsmia. Donc il y a la répétition tsemar tatsmia. C'est le chevreuil qui vient, qui vient pas. Et donc régulièrement dans ma Amida, pendant que vous prenez un petit, j'y pense. Voilà, je pense à vous. Je pense à Arnaud, à Rémi. Je pense à vous. Non vraiment.
Vayas Moshe et Aaron kasher tziva Hashem otam ken asu. Moshe Aaron a fait comme Dieu a ordonné, leur a ordonné, ainsi ils ont fait. Ou Moshe ben Shmanim Shana, Aaron ben Shalosh ou Shmanim Shana, Bedabram El Paro. Et Moïse a 80 ans et Aaron 83 ans quand ils parlèrent à Paro. Donc là, c'est la première fois depuis le début de l'Exode que l'on voit les âges respectifs. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron emo. Hashem dit à Moshe, à Aaron en disant, Ki daber alechem paro lemo, tenu lachem mofet. Vamarta el Aaron, kach et matecha, ve ashler lifne paro yei letani. Quand Pharaon va vous parler en disant, faites-moi un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, il sera un tanine. Est-ce que c'est un tanine? Je ne sais pas. On l'a déjà vu, hein, le tanine, bon, crocodile, un serpent. Quoi?
Crocodile.
Crocodilicos. Alors, regardons Rashi. Mofet donne. Donner un signe. Léodia, Sheyest Sorer, Bemi Shecholar et Trem. Un signe pour faire savoir qu'il a un besoin, je veux dire une capacité dans celui qui vous envoie. Oui, ça veut dire t'arrives.
Ouais,
ça veut dire Vatican, combien de bataillons? Qui c'est qui a dit Vatican, combien de bataillons? Arnaud?
Je sais pas.
Oh là là, c'était Staline. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas, il y avait un truc avec le Vatican. Il y avait Vatican, combien de bataillons? Bon, passons. Enfin, voilà, il dit, voilà, vous venez, ça veut dire on arrive là, je sais pas, Antoine et moi, on arrive devant Poutine. Ouais, on dit Poutine, dis-moi, t'arrêtes d'aider l'Iran, Erdogan, etc. Tu peux venir faire avec nous la bise à Netanyahou. Il dit, qu'est-ce que vous me donnez? C'est quoi? Vous représentez qui vous êtes? Vous représentez le CRIF? Non, ça veut dire le FSU, je ne sais pas, le SPCJ, je ne sais pas, dites-moi quelque chose. Qui vous êtes? Chkoun. Ouais, c'est qui? C'est... Alors, elle dit, faites-moi quelque chose pour montrer un peu qui c'est celui qui vous envoie. Alors, il dit, alors, ainsi, une carte d'identité. Et il dit, voilà, prends ton bâton, jette-le, c'est là, insert. Alors, Tanin, Rachidi, Nahash. Rachid explique, serpent. Voilà. Vayavo Moshe. Alors, ça, c'est extraordinaire. On va voir là maintenant. Regardez. Vayavo Moshe, Ve'aaron, El Paro. Vayasuken, Kacher, Tziva Hashem. Vayasher Aaron et Matéou l'ifné paro, veillifné avada, veillir et tani. Moshe et Aaron arrivèrent devant Pharaon. Ils ont fait un sec comme ça, comme Dieu a ordonné. Aaron a jeté son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs. Ce fut un serpent. Veikra gam paro la chachamim, veilam chashvim, veyasou gamem chartoumé mitzraim, belatéen ken. Alors, on sait que l'Égypte était le centre international de la sorcellerie. Pharaon, alors là, le Midrash dit que Pharaon, il a rigolé. Ça veut dire, tu arrives à la foire, tu fais un numéro, et c'est moi le patron de la foire, du cirque. C'est le pays du cirque. Et tu me fais un numéro de cirque. Je veux dire, c'est risible. Il appelle. Ça, c'est vraiment incroyable. Oh, ouais. Comment?
Je crois qu'il dit que même si les enfants pouvaient faire un
hache. Voilà, c'est-à-dire, tu amènes. Dans une grange, j'amène de la paille. Comme ça, les chrames disent, t'as une grange pleine de paille, t'amènes de la paille. Donc ça, c'est vraiment, c'est étonnant. Pharaon appelle les Chachamim, ses sages et ses sorciers. Pourquoi il appelle les sages et les sorciers? Il appelle les sorciers, pourquoi les sages? Ils firent les sorciers d'Égypte avec leur sortilège. Regardons Rashi, Bela Tehem, Bela Chacheom, avec leur formule magique. Ve Eno Dimayon Bamikra, il n'y a pas de Belat et M, il n'y a pas d'autre endroit avec cette racine dans les versets. Yeshlo damotlo être la av acherem itaperet do ish et mitaperet al yedel la chash. La at acherem amitaperet. On voit le mot la at au sujet. C'est quoi la at acherem et mitaperet rabotai novarer?
L'épée là au.
Comment? Ouais.
C'était l'épée à la sortie du jardin d'Éden.
Voilà, c'est ça. Alors,
quand Adam et Chava ont été chassés, non?
Très bien.
Les mitapères, ça veut dire qu'ils se transforment. Je vois pas en quoi ça. Je sais pas ce que ça veut dire.
Comme ça garde l'arme de la vie.
Ça, c'est pour Jonathan qui a expliqué le contexte. Ça aurait pu être pour notre ami Vanish. Voilà, Rémi. Hein, là, t'es mal, hein, Rémi. Hein. Là, t'es jaloux. Hein.
Ça va, il a sa bouteille de Stolchoina.
Non, non, ce soir, c'est sans alcool. Là.
Ah oui,
ouais, j'en ai pris un petit peu avant.
Moi, je suis allé à un cours de Torah ce soir, mais c'est quoi sa tendance? Ouais, nous prenons un judaïsme régressif. Que les choses soient claires.
Joyeusement
régressif. Le naïsme régressif. Régressif et biodégradable, évidemment. Évidemment. Oh, c'est l'essentiel. Là, ça, c'est biodégradable, ça. Comment dire, ça, c'est en facteur. Bien. Alors, donc, la hâte à Kherev, le mot Rashi. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on dirait que c'est Rashi qui a fait le travail. Ce n'est pas qu'il a pris de ses maîtres. Il me semble qu'on trouve cette racine, la ATM, c'est-à-dire que la flamme, la lame du glaive qui tournoyait, qui protégeait l'arbre de la vie, ressemblait comme s'il tournait de manière magique. La hâte, il y a quelque chose de magique dans cette histoire. Et l'ATM, avec leur sortilège, leur formule magique. Vayashlichu ish mateu, vayu letanim. Chacun a jeté son bâton et devint des serpents. Vayvla mate Aaron et matotam. Et le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. C'est-à-dire, une fois que ces bâtons sont devenus des serpents, ensuite ils sont redevenus des bâtons, mais c'est le bâton d'Aaron, c'est pas le serpent d'Aaron qui les a avalés, c'est ce que Rashi va dire. Vaivla maté Aaron, c'est la Gemara dans Maseret Shabbat, mais achar shechazar menase maté bala et kulam. Une fois que le serpent d'Aaron est redevenu un bâton, il a valu avaler les autres bâtons. Verset d'après, vaichazek lev paro velo shama alehem kasher diber Hashem. C'est renforcé le cœur de Pharo. Velo shama alehem. Pharo a durci son cœur. Ça veut dire. Oui, comment vaïchazek le Pharo? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça démarre de là.
Oui, non, mais d'accord, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Traduisons bien. Vaïchazek le Pharo.
Roman, il dit, il s'est donné du courage. Il dit que quand il dit à Chazak, sinon c'est Kaved. Utilisé après. Il utilise le terme pour l'endurcissement. Il dit que quand ses parents qui s'endurcissent, il se donne du courage parce qu'il sent la peur arriver, mais il se dit je peux encore le maîtriser, je vais dépasser ça.
D'accord. Enfin, c'est renforcé. C'est fort. Khazal, c'est fort. Il a renforcé.
Il a renforcé son ego.
Mais est-ce qu'on peut, de manière simple, est-ce qu'on peut de manière simple essayer de sentir qu'est-ce qui se passe? Et Chazek le Pharo, selon l'expérience, pour que ça ne soit pas intellectuel, qu'on puisse. Parce qu'il a vu quand même un prodige là. C'est un micro-prodige. Ce qui est très intéressant, c'est que. Ce qui est intéressant, c'est que Hachem demande à Aaron de faire quelque chose de cafouilleur quand même. Pourquoi il n'a pas demandé? Il a demandé.
C'est pas décrit comme ça. On voit là, quand il montre les signes, on ne voit pas que le bâton va après gérer la suite. On voit juste un bâton qui se transforme.
D'accord.
Donc c'est vrai que là, on se demande même si est-ce que c'était prévu comme ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est...
Peut-être c'est ça, il y avait Reza, c'est justement ça, le fait qu'il a brouillé les pistes. Il a montré quelque chose de tout à fait anodin au départ, et ensuite, là, il a fait tout à la fin, mot de la fin, il lui a envoyé un vrai truc, un vrai prodige. C'est justement... voilà, il fait une confusion, Béremès, ça veut dire, si tu veux l'entendre, tu veux toujours t'attacher au reste, à tout ce qui a tout à fait autour, ouais, mais ouais. Si tu veux le voir, tu peux. Et c'est ça, il lui a donné le choix, quoi.
C'est terrible en vérité, parce que Hachem, il veut que l'homme fasse le choix, enfin, que Pharaon fasse le choix. Or, d'après un avis du Midrash, Pharaon fera le choix de manière ultime. Hein. Mais il l'aide sans l'aider. C'est fou quand même.
Ah, oui. Un peu comme Moshe avec les explorateurs, comme on avait vu en cours. Ouais. La question que pose Moshe, c'est presque. Ouais.
Il l'aide sans l'aider. C'est
Alors, ça sert à rien de dire. Mais...
Comment?
Alors, ça sert à rien.
Voilà, très bien. Il lui tend une perche. Molle. Non, ça veut dire, si déjà, il dit, montre-moi qui c'est celui qui te mandate. Il fait un truc foireux.
C'est vrai que ça, c'est que...
C'est... Non, mais c'est...
C'est
fou.
C'est incroyable,
je n'avais pas compris comme ça. Voilà, c'est ça ce que je veux.
Il fait un truc foireux.
Il fait un truc foireux.
Oui, du coup, ça le renforce, tu vois.
Oui, mais c'est pas, comme dit Chaïm, c'est foireux, pas vraiment.
Oui, pas vraiment, parce qu'après, ouais, c'est la fin, c'est le vrai produit, c'est la fin.
Ouais, mais
c'est pas les nachas, c'est le bâton qui manque. Qui, c'est surnaturel,
c'est vrai. Plus que.
Alors, peut-être ça, le Mechazek, c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'il a été Mechazek. Non, comment il a été Mechazek? On sait qu'il a été Mechazek. Comment? Et ben, il lui a donné une petite dose, il a pas assez fort pour le. Pour... Il lui a donné un coup, mais pas assez fort. Alors du coup, il s'est armé petit à petit, il prend des armes.
En plus, c'est pas encore des macos. C'est vrai que c'est un premier.
Bon.
Mais c'est déjà surnaturel sans que ce soit.
Progressivement, il est mécanisé avec son corps.
Il
les ferait un peu quand même.
À mon avis. C'est une drôle de carte.
À ce moment-là, il les ferait un petit peu.
C'est une drôle de carte d'identité, c'est vrai. C'est-à-dire
qu'il se moque de lui, il dit moi je peux le faire, les enfants ils peuvent le faire, mais ce qui se passe après, il ne peut pas le faire, personne ne peut le faire. Et il le voit, et du coup là, il commence à être effrayé. Donc il se renforce.
Il y a quelque chose qui est très profond. Parce que nous, on vit ça. Vous voyez, parce que quelqu'un, vous avez déjà rencontré des juifs pieux. Les juifs pieux, j'ai déjà rencontré. Non, c'est le. Je dis ça en toute gentillesse. Ce que je veux dire, c'est avec beaucoup d'affection. C'est pas du tout pour me moquer, Chas v'Shalom. J'appelle ça génération Torah Box. Bah, ça veut dire, on est convaincu. Ouais, on est convaincu que la Torah a raison. Ce que je participe de ça. Ça veut dire que on voit des choses, on voit le coronavirus, on voit tout ça, on voit la main de Dieu. On se pose la question, comment ça se fait? Nous, on voit et les autres ne voient pas. C'est une question. Est-ce qu'ils ne veulent pas le voir, etc. Ça veut dire que Hachem, quand il se révèle, pas vraiment, c'est ça. J'ai vu, toi, tu m'as dit quand on s'est parlé au téléphone l'autre jour que tu as entendu des choses de l'enseignement de Rav Nachman de Breslav.
Hein?
Alors, une fois ou plusieurs fois, j'ai vu dans les écrits de Rabbi Nathan, il dit que Rav Nachman de Breslav, il disait qu'il peut enseigner des choses qui sont tellement impressionnantes que ça enlèverait le libre arbitre à ses auditeurs. Alors il ne dit pas. Comment ?
Il brûle même.
Voilà. Et il brouille les pistes. Il brouille les pistes.
C'est très
dur. Et là, on voit que Dieu brouille les pistes. Il dit, montre-moi qui c'est celui qui t'a envoyé. Ah, allez, tu vois les mecs, ils rigolent, les parents, on fait la même chose. On fait la même chose. On fait la même chose. C'est fou quand même, c'est incroyable. Ils rigolent les mecs. Alors c'est sûr, à la fin, il y a un petit truc. C'est ce que tu dirais à la petite truc qui peut.
Je pense.
Et la vie, elle est comme ça en vérité. Elle est comme ça, notre existence. Des petits trucs, des petits bugs, des petits machins, des petits bidules.
Non, mais là, il y a une chose. Logiquement, Pharo aurait dû libérer les Israël, qui est Moshe ou Aaron et Aaron ou pas. Les Bnei Israël, c'est ceux qui lui ont sauvé le pays.
Attends, une seconde. C'est pas libéré. C'est aller dans le désert 3 jours. Hein. Il n'a pas dit libéré. N'oubliez pas. C'est-à-dire, Armstrong, kill it, let my people go.
Let my people go. Ça, c'est pas. Il n'a pas lu.
Là, il fait paro. Il fait paro à la base. Il fait paro à la base. Il n'a aucun fondement depuis le début de Shemot. Puis il dit qu'ils vont s'associer à nos ennemis, des trucs, des prétextes qui ne tiennent pas la route, alors que les Israël sont ceux qui ont sauvé le pays. D'accord ? Donc, à la base, cette situation, elle n'est pas normale. Un vrai dirigeant aurait dû, au contraire, faire copain avec les Israël autant que possible. D'accord ? Donc, ici, on lui met un petit clin d'œil qui devrait. C'est une petite étincelle, mais normalement, il n'a même pas besoin de ça. Normalement, il n'a même pas besoin de ça. Ça devrait le secouer un petit peu. Et se dire, bon, peut-être qu'on fait un peu n'importe quoi depuis quelques années. Et c'est tout. Mais moi, il me semble que toutes ces atraotes qui vont aller en crescendo depuis le départ, si Paro était un être normal, un dirigeant normal, n'aurait pas fait ça. Ça veut dire qu'il n'aurait pas mis en esclavage les Bnei Israël, ne les aurait pas maintenus en esclavage, aurait accédé à une demande d'aller faire quelques sacrifices pendant 3 jours dans le désert.
Moi, j'aurais été à la même chose. Hein.
Non, c'est toute l'histoire des galoutes d'Israël, ça.
La seule chose qui a le seul prodige incroyable, c'est qu'il ne tue pas Moshe. Hein. La seule chose que je ne digère pas, c'est que pourquoi il ne tue pas Moshe. Alors là, c'est un compromis.
Les Américains viennent délivrer la France en 40. D'accord.
D'accord. Allez, ça enregistre.
Qu'est-ce qu'on fait? Allez, venez, on les met tous dans des camps et on les a servis. Les Juifs ont sauvé l'Égypte de la famine, on le sait. Enfin, ils sont d'accord. Personne ne remet ça en cause. Qu'est-ce qu'on fait? Venez, on va les asservir. Et tout le monde est d'accord.
C'est magnifique. Si tu as servi des gens forts, tu deviens encore plus fort.
Depuis le départ,
ce que tu dis, ça passe pas là.
Ça se passe du temps quand même. Ça veut dire,
c'est des galoutes. La galoute qui sera sur
l'Égypte. Ce n'est pas que des pays d'Israël. Israël, on vous dit par Ochadash.
C'est le monde meilleur pour les autres, pour les nations. Ils ont révélé tellement de choses. Et plus ils révèlent, plus on déteste. Plus ça dure sur les guerres.
Mais ce n'est pas une situation.
On est en galoute à ce moment-là.
Ils ont eu peur.
On est en galoute. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas chez nous. On est en galoute.
Ils
veulent pas
en perdre. Non, ils avaient aucune raison d'avoir peur.
Ils avaient peur.
Ils avaient peur qu'ils soient plus loin. Ils perdaient leur identité.
Bien sûr.
Être reconnaissant.
Non, mais on a très bien vu que c'était complètement contre-productif.
Être reconnaissant.
Notre identité, on dégage des intrus. C'est comme ça qu'on fait quand on a peur de perdre son identité.
Oui, mais ils ont la bracha, les Juifs. Donc ils les gardent, mais ils les asservissent.
On est dans du bidon. Garde les Juifs en disant ils vont s'associer à d'autres.
J'essaie de synthétiser en détail. Ce que dit Jonathan. Il me semble ce que tu veux dire. C'est qu'en vérité, au niveau rationnel, cette finesse dans le prodige pourrait être suffisante. Ça veut dire, il y a une exaction, une exaction qui est absurde quelque part, d'asservir ce peuple qui les sauve. Il y a quelque chose d'absurde. Ils prennent un mauvais chemin. Ce chemin est vraiment destructeur pour eux. Simplement,
Il faut les remettre un petit peu sur le droit chemin. Ça suffit en vérité. C'est ça, ça ce que tu dis. Ok. Alors regardez, on va regarder ce que fait le Maharal. Donc une idée de l'heure, vous me dites là un peu. 11h. Bon. Bon, on commence notre soirée, notre veillée d'études. Alors, on va faire quelques lignes. Vayashler à Aaron. Vous voyez, début du 32e chapitre. Ce soir, je suis soucieux. Pourquoi Abraham Drogoziner n'est pas avec nous? Je ne sais pas, je vais le faire parce que ça fait des années, il ne loupe jamais une étude. Bon, je ne sais pas. On va voir. Shosha Otot, Tsiva, Akadosh Bohu, Lasot, Ifne, Israël. Trois prodiges, Dieu a ordonné de faire devant Israël. Lasot, Maté, Nachash, devant Israël. Que le bâton devienne un serpent. Ayad, Metsora, la main lépreuse. Ve, Amayim, Asher, Ikar, Minayeor, Ye, Dam, Bayavasha. Et que l'eau qui prendra du canal se transforme en sang sur la terre sèche. Olifne paro, loasa, rak, ot, echad, lasot, amate, nachash. Mais devant Pharaon, il ordonnait de faire un seul prodige, que le bâton se transforme en serpent. Veyesh, la tête à âme. Il faut donner une explication. Ki gimel otot, kedesh yaminu, emunash lema, kemosh el bernemal. Ces trois signes, c'est pour se construire une confiance parfaite, comme on a expliqué plus haut. Le Karnéma avait mis nous l'école à Hot à Aharon. Ils auront confiance à la voix du dernier prodige. Aval Paro, l'Oye Ma'amin, c'est Chazek Libo. Et Pharaon, le but n'est pas qu'il soit Ma'amin, qu'il ait confiance, parce qu'il durcit son cœur. Le Fikar d'Ayaya Be'ot Echal, la Sot Shelato, Asher Shal, Tenu Lachem Ophet. Étant donné que Pharaon ne sera pas Ma'amin, il a posé la question, donnez-moi un prodige. Il a donné un prodige. Mais Davka Ot Anachash Asa. En vérité, ce n'est pas un prodige, c'est un signe, Ot. C'est un signe. Il veut, c'est lui signifier quelque chose, signifier qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas le soumettre, mais signifier qu'est en train de se passer, ça c'est le serpent. Car, kanachash basmo gamken, nit kalkel beser klalot, car le serpent lui-même a été maudit par les dix malédictions. Regardez, on s'arrête là-dessus, puisqu'il va développer là-dessus sur qu'est-ce que représente le serpent. Et Bezrat Hashem, on verra ça la prochaine fois, si vous le voulez bien. C'est bon, les amis.